Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand a choisi de nous faire rêver aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le calme, la précision, l'adresse, le savoir-faire, tout cela au service de l'excellence et du dépassement de soi. Nous allons évoquer aujourd'hui la quintessence de l'artisanat d'art à travers l'exemple de sculpteur sur bois, d'ornemaniste. Alors cette idée nous a été soufflée, pour tout vous dire, par un de nos jeunes auditeurs, François Gilles, diplômé de l'école Boulle et meilleur apprenti de France. François Gilles, régulièrement depuis des mois, vient nous rendre visite rue François 1er avec le panneau de bois qu'il sculpte patiemment, semaine après semaine. Ce qui naît sous ses doigts est tout simplement magnifique et nous a donné envie d'en savoir plus sur les grands devanciers qui l'ont inspiré.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous ne répondrez à aucune question.
En effet, une fois n'est pas coutume, je consacrerai les dernières minutes de l'émission à l'évocation d'une des histoires de patrimoine les plus étonnantes de notre époque.
Cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1.
Franck Ferrand.
Quand on ferme les yeux et qu'on imagine le décor mural des demeures royales de la France, de l'ancien régime, de l'ancienne France, on a presque toujours à l'esprit de belles boiseries, aux teintes douces, aux entrelacs subtils, aux motifs évocateurs, des boiseries souvent rehaussées de dorures. Cette sculpture d'ornementation qui est tellement essentielle pour donner aux intérieurs du XVIIIe siècle l'éclat qui est le leur, cette sculpture est un art discret, un art délicat presque effacé à côté des marbres tapageurs. Mais c'est un art d'un raffinement inouï, extrêmement exigeant sur un plan technique et qui nécessite un travail colossal. Notamment grâce aux commandes des familles royales et princières, cette forme de sculpture sur bois a atteint au XVIIIe siècle un apogée incarné par quelques artistes prodigieux et parmi eux, les représentants de trois générations de ce qu'on pourrait presque appeler une dynastie, les Rousseau. Des Rousseau qui ont maintes fois fait la preuve de leur extraordinaire talent et particulièrement au château de Versailles où ils se sont souvent illustrés. Le premier grand représentant de cette dynastie Rousseau, c'est Alexandre. Il apparaît au grand jour de l'histoire en même temps qu'émerge pleinement l'art d'ornemaniste. On pourrait presque dire qu'il a accompagné l'éclosion de ce nouvel art. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que pendant très longtemps, les décors muraux des palais et des grandes maisons françaises étaient simplement constitués de tentures. On tendait des suites de tapisseries notamment. Et puis, petit à petit, on a vu apparaître les balambris, les simèzes, etc. Dans les palais royaux du règne de Louis XIV, les balambris sont encore largement en marbre. C'est vers la fin du XVIIe siècle et au tournant du XVIIIe que va se développer, à proprement parler, le type de boiserie beaucoup plus élaboré qui va faire la célébrité des Rousseau. Alors, Alexandre Rousseau tient un atelier. Il est issu d'une famille dont il semble que plusieurs branches se soient depuis longtemps spécialisées dans l'artisanat. Il tient un atelier qui travaille déjà pour le château de Versailles sous Louis XIV. Il est apprécié pour son talent. Il reçoit de nombreuses commandes. On ne sait pas grand-chose, disons-le, sur sa vie, sinon qu'il associe rapidement à son travail son fils, Jules-Antoine, son fils qui naît en 1710. Donc vous voyez qu'on est déjà de plein pied dans le XVIIIe siècle. Alors, comme dans toutes les dynasties d'artisans, le souci de la transmission est essentiel. S'il y avait peut-être un mot à retenir de l'émission d'aujourd'hui, c'est bien celui-ci. C'est ce terme de transmission. Pendant des semaines, des mois, des années, on apprend de son père et des compagnons de son père avant de maîtriser soi-même l'art suprême. Jules-Antoine va s'imprégner de la délicatesse extrême de ce travail et par étapes, il va maîtriser à son tour les gestes précis, minutieux, nécessaires à, comment dirais-je, à apprivoiser le bois, à soumettre la matière rigide à la volonté et à l'imagination et au savoir-faire, bien entendu, de l'artiste. Le jeune Jules-Antoine a l'opportunité de se former à un moment où les goûts artistiques connaissent, il faut le dire, une profonde évolution, une évolution qu'on peut lier à des changements politiques d'ailleurs. On est passé, rappelez-vous, l'enseigne de Gersaint qui montre très bien ça, le célèbre panneau de Watteau. où l'on voit l'ancien grand siècle, si je puis dire, un peu rigide, un peu guindé, qui disparaît dans les caisses, tandis qu'on exhume d'autres caisses un art beaucoup plus détendu. C'est tout l'art débridé du rocaille, si je puis dire. François Gilles l'explique à l'art bridé tout en solennité orgueilleuse et en élégante fermeté du règne de Louis XIV, nous dit-il, succède un art en quelque sorte libéré qui évolue vers, je le cite, « une vie fourmillante envahissant la surface des boiseries. Dans de légers feuillages apparaissent quelques chimères et autres animaux étranges qui semblent se cacher dans des lierres grimpants, pivoines tombantes et autres acanthes graciles. Cette faune et cette flore semblent littéralement prendre d'assaut la surface des meubles et des boiseries. » Alors, toutes ces évolutions vont changer le métier d'ornementiste. Bien entendu, Jules-Antoine le sait, il n'est pas destiné à produire les mêmes œuvres que celles qu'accomplissait son père 20 ans auparavant. Il faut constamment saisir le goût de l'époque, s'y adapter, peut-être même l'inventer un peu. Pour répondre aux défis que pose ce bouleversement artistique, donc l'efflorescence du style rocaille, il faut atteindre une finesse d'exécution peut-être encore plus grande. L'objectif est de tendre vers toujours plus d'originalité, de raffinement dans des jeux d'élégance, de fantaisie, tout en courbes et en entrecourbes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le jeune Rousseau réussit merveilleusement dans cet art-là. Au-delà des mérites de son père, c'est lui qui va véritablement donner à l'atelier Rousseau sa dimension, c'est lui qui va bâtir sa réputation tellement extraordinaire. Mais pour autant, il ne faudrait pas imaginer que Jules-Antoine soit seul à travailler le bois. Il ne faut pas l'imaginer dans une espèce de masure mal éclairée, d'un quartier mal famé. Bien au contraire, il est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un véritable chef d'entreprise. Dites-vous que l'atelier, au meilleur de son temps, va compter entre 50 et 100 sculpteurs qui sont là à demeure. Jules-Antoine doit donc savoir organiser le travail, il doit mener ses hommes, il crée des modèles et ensuite ces modèles, et bien maintenant, ils sont transcrits, si je puis dire, reproduits. Dans cette petite fourmilière qu'est donc l'atelier Rousseau, chacun tient son rôle, des plus expérimentés aux simples apprentis, et tous ne partagent qu'une obsession. Cette obsession, c'est l'excellence.
C'est un extrait de l'Anacréon Air Vif de Jean-Philippe Rameau à l'instant sur Europe 1, Capella Savaria.
Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, Franck Ferrand.
Franck Ferrand, vous nous proposez une émission spéciale consacrée à l'excellence des ornemanistes comme par exemple les frères Rousseau.
Qui dit excellence dit grand commanditaire et sous l'Ancien Régime, évidemment, on se rapproche toujours dans ces cas-là de la famille royale. On va voir les Rousseau travailler pour la famille royale, à Versailles bien sûr, mais aussi à Marly, à Fontainebleau. On les voit travailler pour Madame de Pompadour, au château de Crécy notamment. Cette réussite va permettre à Jules-Antoine de mener une vie très confortable, il faut bien le dire. Il possède même un hôtel particulier à Versailles, c'est là qu'est installé l'atelier. Il peut aussi se déplacer au gré des commandes sur les chantiers les plus prestigieux. Bientôt, Jules-Antoine doit lui aussi penser à sa succession. Si son premier mariage ne dure que quelques semaines, puisque sa première femme meurt tragiquement, sa deuxième union, conclue après à peine 4 mois de veuvage, hein, il faut aller vite, il faut songer à la succession, si je puis dire, cette deuxième union est nettement plus durable. Deux garçons vont naître, Jules Hugues, qui naît en 1743, et Jean Siméon, qui naît en 1747. Et eux deux vont faire bien plus que simplement reprendre le flambeau familial. On était déjà dans l'excellence, alors vous allez me dire, vers où va-t-on ? Je vous propose de le voir maintenant. Pour Jules Hugues, l'aîné des deux frères Rousseau, donc, le destin est tout tracé. C'est lui qui va reprendre l'atelier familial. On peut raisonnablement penser qu'après avoir fréquenté l'école pour apprendre à lire, à écrire, etc., Jules Hugues intègre l'atelier très tôt. Et évidemment, il apprend le métier. Donc là, on est dans la transmission tout à fait classique, si je puis dire. Quand même, il faut noter la particularité, malgré les règles des corporations de l'époque, ces règles qui régulent les métiers de l'artisanat à l'époque, il a cette particularité, Jules Hugues, de n'avoir pas passé la maîtrise nécessaire à la direction d'un atelier. Ça ne l'empêchera pas de le faire quand même. Lorsque le moment viendra, nous en parlerons tout à l'heure avec mes invités. Et puis le frère, alors, Jean Siméon, eh bien lui va dans un premier temps prendre une autre direction. Il faut dire qu'en tant que cadet, il est sans doute plus libre. On peut dire qu'il n'a pas, lui, la même pression sur les épaules. Son choix est de devenir peintre. C'est d'ailleurs en cette qualité de peintre qu'il intègre l'Académie royale de peinture et de sculpture. Vous voyez qu'il a quand même, si je puis dire, le bras long, le jeune Jean Siméon. Dans ce cadre, il fait preuve d'un véritable talent. Il remporte notamment une médaille de quartier pour un dessin de femme exprimant la surprise mêlée de joie. On aimerait bien le voir, ce dessin. Ça marque probablement, on va dire, son entrée dans la vie active. Faut-il voir dans cette spécialisation dans la peinture un ordre paternel pour essayer de diversifier un petit peu les talents de la famille et de l'atelier ? C'est possible, on n'en sait rien en vérité. Jean Siméon choisit d'abord d'installer son atelier à Paris, dans la dynamique rue Saint-Denis. Il s'associe en 1770 avec un autre sculpteur. Et c'est en 72 qu'il décide finalement de retrouver son père et son frère dans l'atelier familial à Versailles. Il n'en conserve pas moins son établissement parisien, ce qui a l'avantage de lui permettre de toucher une clientèle beaucoup plus diversifiée, et notamment un certain nombre de particuliers. Lui ne travaille pas que pour les princes. À cette époque, les goûts en matière de boiserie ont beaucoup évolué. On est déjà loin du rocaille, évidemment. Vous savez que sous le règne de Louis XV, j'ai eu l'occasion de vous en parler déjà plusieurs fois, les décors qui étaient allés très loin dans la fantaisie, dans l'exubérance, dans le côté tourmenté de ce style rocaille, ces décors pleins de courbes et d'asymétrie, ce tourbillon de légèreté, bien entendu, va évoluer vers autre chose. L'explosion de la commande privée implique que l'art échappe en partie aux académies et autres instituts d'État, nous explique François Gilles. Louis XV n'a pas cherché, contrairement à son prédécesseur Louis XIV, à imprimer sa marque sur les arts. Il le fera plutôt par l'intermédiaire de son entourage, qui aura une très forte influence sur le goût de l'époque. Seulement, ces modes dans le vaste courant philosophique qui, à l'époque, anime l'Europe, ces modes s'interrogent sur elles-mêmes, sur leur vocation, sur leur raison d'être. Et dans la deuxième partie du règne, l'exubérance, donc, va être remplacée par un retour à des formes beaucoup plus pures, beaucoup plus classiques. J'ai eu l'occasion de vous raconter ici le célèbre voyage du marquis de Marigny, le frère de Madame de Pompadour, qui était justement surintendant des bâtiments, qui était une sorte de super ministre de la culture, si l'on peut dire, et qui était le principal commanditaire pour tout ce qui regardait l'État. Le marquis de Marigny avait fait, avec l'abbé Leblanc, avec Cochin, avec Soufflot en personne, un extraordinaire voyage en Italie au cours duquel il s'était épris d'art antique. Et à son retour, avec un certain nombre d'autres, j'allais dire leaders d'opinion pour commettre un énorme anachronisme, à son retour, il va pousser dans cette direction. On revient vers un style beaucoup plus sobre, nettement épuré, un style qu'on appellera, nous, avec le recul, le style néoclassique. Donc changement total dans les formes. Eh bien, l'atelier Rousseau va savoir prendre ce nouveau tournant, ce nouveau virage, si vous voulez. L'alliance des deux frères, le sculpteur et le peintre, va même se révéler particulièrement riche. Et quand leur père meurt, il meurt à l'âge de 67 ans, donc comme il était né en 1710, nous sommes là en 1777, c'est-à-dire au tout début du règne de Louis XVI, eh bien, les deux frères sont seuls en piste. Même s'ils ont, on l'a dit, quelques clients privés, ils dépendent pour une bonne part des commandes princières et royales. Or, à cette époque, la réputation de leur atelier n'est plus à faire. Ils continuent à travailler beaucoup pour le roi. Ils continuent à travailler essentiellement pour le château de Versailles.
C'était un extrait de L'Orfeo et Eurydice de Christophe Willibald Gluck sur Europe 1.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Reviens dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand.
De l'architecture à la sculpture, en passant par l'ébénisterie ou encore la typographie, on parle des ornemanistes avec vous cet après-midi, Franck.
C'est très facile, évidemment, avec le recul de raconter ça. On dit, oh ben, les frères Rousseau prennent le virage du style néoclassique. Ils travaillent beaucoup pour des commandes privées, mais aussi pour les familles princières et royales. Ils sont toujours à Versailles, etc. Il faut voir ce que ça veut dire dans le concret du travail d'un atelier à cette époque. Tout ça suppose un travail énorme, phénoménal, bien entendu. Or, et lorsqu'on travaille pour la cour, c'est l'un des gros problèmes, on a très peu de temps pour travailler, parce qu'inutile de vous dire qu'on ne va pas installer des boiseries pendant que la famille royale et que les courtisans sont à Versailles. Il faut profiter des voyages, des déplacements de la cour, c'est-à-dire des périodes de temps relativement limitées, à Compiègne au début de l'été, à Fontainebleau au moment de l'automne, pour essayer justement de mettre en place tout ce qui a été fabriqué, tout ce qui a été travaillé pendant le cours de l'année. Alors ce sont des années extrêmement fastes hein, pour les frères Rousseau qui ornementent parmi un nombre impressionnant de pièces du château le grand cabinet intérieur de la reine. La reine c'est maintenant Marie-Antoinette, on est là en 1783. Le cabinet de la garde-robe de Louis XVI en 1788, ça c'est une merveille absolue. Hein. C'est peut-être ce qui a été fait de plus raffiné en matière de boiserie. On peut dire que leurs réalisations communes sont marquées par un véritable coup de génie qui est la rencontre, si l'on peut dire, entre deux arts, sculpture et peinture d'une certaine manière. Alors si on ne sait pas jusqu'à quel point ils travaillent ensemble dans les différentes étapes de la réalisation de leurs œuvres, ils parviennent en tout cas à trouver des équilibres subtils. Ils jouent sur les couleurs, l'ombre, la lumière, les trompe-l'œil, sur la polychromie des ors, évidemment, lorsqu'on travaille pour le roi ou la reine. Pensez au cabinet turc de Marie-Antoinette à Fontainebleau, qui est une merveille absolue, qui d'ailleurs a été restaurée récemment et que je ne saurais trop vous engager à aller voir. C'est une merveille, une merveille. Les deux frères atteignent une forme de quintessence de cet art si délicat qu'ils ont reçu en héritage, dont ils sont les continuateurs et dont on peut dire que d'une certaine manière, ils sont aussi les inventeurs ou réinventeurs. Alors, évidemment, l'époque ne tarde pas à menacer ce savoir-faire dont probablement ils se conçoivent comme les gardiens. Je vous ai dit que le cabinet de garde-robe de Louis XVI a été sculpté dans les années 1787-88. Donc on est vraiment à la veille même de la Révolution française. Et cette révolution, c'est le séisme pour tous les artisanats, du reste, pas seulement pour les ornemanistes, vous l'imaginez bien. Tout le système dont dépendent ces artistes et ces artisans, toute l'organisation pluriséculaire dont ils sont les extraordinaires héritiers, dont ils sont en quelque sorte l'aboutissement suprême, tout ce système va s'écrouler. Il est remis en cause de façon très profonde. Il n'y a plus de commande royale d'un seul coup. Alors, il faut trouver de nouvelles ressources, bien entendu. Alors, on leur demande, vous savez, c'est moins sympathique, mais on va demander à tous ces artisans de travailler à bûcher les insignes de royauté, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire que pendant des années, ils vont être là pour gommer, si l'on peut dire, pour bûcher, c'est-à-dire à raser, si vous voulez, sur les boiseries, les fleurs de lys, les ailes entrelacées, les couronnes, etc. C'est un travail harassant, coûteux sans doute, mais dont on ne peut pas dire qu'il soit très prestigieux ni très stimulant. Les deux frères, de toute façon, il faut le dire, n'ont pas eu de fils. On peut dire vraiment que c'est une page qui se tourne, c'est une dynastie d'artistes qui est en train, sous nos yeux, de s'éteindre. Jean-Hugues se retire dans les premières années de la Révolution. Voilà ce qu'indique sa nécrologie qui paraît dans les 4 saisons du Parnasse en 1807. Jules Rousseau, ancien sculpteur du roi, décédé le 30 août 1806, posséda un véritable talent dans son art. C'est le moins qu'on puisse dire. Je trouve que la nécrologie est d'une sobriété de termes assez étonnante. Il fit longtemps les délices d'une cour dont il eut le bon esprit de saisir les manières aimables ainsi que cette fleur de délicatesse, qualité devenue si rare de nos jours et qui, malgré quelques abus justement répréhensibles, la caractérisait. J'aime bien ce style post-révolutionnaire où l'on veut à la fois flétrir les abus de l'ancienne France et où l'on ne peut s'empêcher d'admirer ses infinies délicatesses. Quant au frère Jean-Siméon, lui est encore actif pendant toute une partie de l'Empire. Il ne mourra qu'en 1820. Alors que fera-t-il pendant toute cette période? On va le voir dans un instant. Cette dynastie des Rousseau, en tout cas. Et je ne voudrais surtout pas que vous gardiez de cette émission l'image qu'il n'y a eu qu'une dynastie d'ornemanistes, c'est les Rousseau. Il y en a eu bien d'autres, on va y venir dans un instant, bien entendu. Mais parmi d'autres, elle a incarné l'excellence dans la sculpture d'ornementation sur bois. Un métier très méconnu, hein. C'est assez étonnant de voir à quel point les artisanats d'art sont prisés en France. On connaît, bien entendu, tous les domaines d'excellence, de la haute joaillerie à la maroquinerie d'art, etc. Mais on a souvent tendance à oublier ce métier essentiel qui est celui de la sculpture sur bois, avec ses évolutions stylistiques extraordinaires, avec cette délicatesse quasiment infinie. On se demande même jusqu'où auraient pu aller les Rousseau et leurs continuateurs si la Révolution n'était pas arrivée. Ils ont fait rêver, on peut dire, des générations d'artistes. Ils ont inspiré, bien au-delà des palais pour lesquels ils ont travaillé, des générations d'amoureux de l'art, tout simplement. Et nos invités sont là pour en témoigner aujourd'hui. Alors, après la Révolution et leur disparition, on peut dire que cette forme d'art va connaître une sorte de coup d'arrêt. Il y aura quelques résurgences par la suite, ça aussi on va y venir dans un instant, mais évidemment, on est très loin de l'apogée et vous avez bien compris que l'apogée se situe entre le règne de Louis XV et celui de Louis XVI. Bonjour François Gilles.
Bonjour.
Alors vous êtes derrière le micro, d'habitude vous êtes dans le couloir si je puis dire. Je suis ravi de vous accueillir dans cette émission, ainsi que Jean-Baptiste Corne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le grand connaisseur de la question. Nous y venons avec vous deux dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
C'est
après-midi, Franck Ferrand vous emmène sur les traces des frères Rousseau, les ornemanistes qui ont marqué l'histoire. Restez avec nous, on se retrouve juste après le Joker de Steve Miller Band sur Europe 1. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. 'Cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my love and on the run. Ooh. Joker de Steve Miller Band sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand.
Franck, vous rendez hommage aujourd'hui sur Europe 1 aux ornemanistes et vous êtes entouré de deux invités aujourd'hui. François Gilles, sculpteur ornemaniste diplômé de l'école Boulle, meilleur apprenti de France, et Jean-Baptiste Corne, enseignant et doctorant à l'école du Louvre et à l'école pratique des hautes études, Franck.
Séquence coulisses, si vous le voulez bien, Anissa, dans cette émission où nous parlons de ce qu'il y a peut-être eu jamais de plus raffiné dans les arts décoratifs français, c'est-à-dire ces grandes sculptures de plein chêne, ces grands panneaux extraordinaires. extraordinairement raffinée, qui était le savoir-faire des Rousseau. Alors je dis séquence coulisses parce que il faut expliquer à nos auditeurs, François Gilles, que depuis pas mal de mois maintenant, vous venez régulièrement nous rendre visite rue François 1er avec ce panneau que vous êtes en train de sculpter et dont vous allez nous parler tout à l'heure. Ça avance bien les travaux ?
Bah oui, oui, c'est même avancé à la moitié et c'était en fait un panneau que j'ai réalisé dans le cadre d'un diplôme à l'école Boulle, le diplôme des métiers d'art. Mm-hmm. Et donc effectivement, je vous ai présenté un peu toutes les évolutions du travail.
On peut parler d'un chef-d'œuvre, hein,
des
coup,
études préparatoires. Oui, oui, en fait, c'est un travail qui se présente comme un chef-d'œuvre, mais voilà, on peut l'expliquer plus en détail si vous le souhaitez.
Ah ben, on va y venir dans un instant. Alors avant ça, j'aimerais qu'on close en quelque sorte le chapitre des Rousseau. Il faut que vous nous expliquiez, Jean-Baptiste Corne, ce que sont devenus les Rousseau au moment de la Révolution. Parce que j'ai été un peu rapide, moi, sur le sujet.
Alors, en ce qui concerne la Révolution, c'est assez complexe de savoir ce qu'il se passe véritablement. Vous avez parlé du principe de bûchage des éléments, ce qui doit être un peu perturbant pour ces sculpteurs de détruire une partie de leur travail. Alors, on sait que le frère aîné, Jules Hugues, reste à Versailles. Il va sans doute rentrer dans le comité révolutionnaire de la municipalité de Versailles avant, finalement, de prendre un peu sa retraite et de partir dans leur terre natale qui était dans l'Essonne. Le plus jeune, Jean Siméon, lui, va rester à Paris. Il va encore travailler. Il ne faut pas croire que sous la Révolution, tous les travaux et les chantiers sont arrêtés. Il continue de travailler pour des financiers. Et après, il disparaît en gros entre 1793 jusqu'en 1818. On le revoit réapparaître sur des chantiers versaillais jusqu'à son décès, donc en 1820.
Oui, donc il travaille, mais à des chantiers qui sont un peu moins prestigieux, il faut bien le dire. On n'est plus du tout dans les extravagances de la reine Marie-Antoinette ou dans l'exigence suprême du roi Louis XVI, qui est Louis XV hein, d'ailleurs. Alors, quand voit-on apparaître ce métier spécifique d'ornemaniste, justement ? Quand voit-on apparaître ce savoir-faire de la sculpture sur bois à des fins ornementales ?
Alors, je pense évidemment c'est avec la Renaissance française, c'est au XVIe siècle où les influences italiennes de sculpteurs arrivent en France et notamment dans le travail, on va dire, d'ornement, de l'habitat domestique, enfin des grandes demeures princières. Donc c'est à ce moment-là qu'apparaît ce principe, je pense, de sculpteur en boiserie qui va véritablement connaître un très grand essor à la fin du règne de Louis XIV, durant toute la Régence et pour terminer un petit peu donc sous la fin du règne de Louis XVI.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'au moment de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, on est en 1689, Louis XIV a envoyé à la fonte tout son grand mobilier d'argent. C'était le mobilier qui ornait les grands salons, ce qu'on appelle le grand appartement à Versailles, notamment, il y en avait ailleurs aussi. Et qu'à partir de ce moment-là, on dit qu'il l'a fait pour des raisons purement financières et pour récupérer de l'argent, des espèces sonnantes et trébuchantes. C'est très possible, mais il y avait aussi une lassitude, il faut le dire. On en avait assez de ce gros mobilier métallique extrêmement lourd qu'il fallait briquer en permanence pour qu'il brille, hein, bien entendu, sinon il s'oxydait. Et donc on va se porter vers le bois sculpté et doré, en fait. Et donc il y a dans les années 1690 et 1700 une véritable efflorescence de ce bois doré qui va peu à peu, si je puis dire, gagner les murs. Ça n'était pas le cas à l'origine, hein. On n'avait pas ces murs de boiserie.
Exactement, donc il y a une volonté un peu d'alléger aussi le décor, d'enlever ces teintes, on va dire, très lourdes dans le textile, rouge, bleu, vert, pour aller vers des boiseries blanches et or, beaucoup plus sobres et harmonieuses.
Nous, maintenant, avec le goût actuel, ça ne nous paraît pas si sobre que ça, mais pour l'époque, c'est un pas vers la sobriété.
Tout à fait.
Et vers le confort aussi, peut-être.
Également, alors bon, il faut bien voir que la boiserie est quand même moins chaude que le textile. Hein. Elle garde moins la chaleur, mais voilà, il y a un souci également de confort, peut-être dans l'entretien même de ces boiseries par rapport au textile.
Alors, on est habitué à voir toutes ces boiseries blanches et or. D'ailleurs, entre parenthèses, le 19e et le 20e siècle ont eu tendance à redorer beaucoup de boiseries qui ne l'avaient jamais été. C'est assez drôle, ça. La dorure était plutôt le fait des princes et des rois, si je puis dire. On avait des dizaines de façons de traiter la boiserie. Hein. Elle n'était pas toute blanche et or, quand même, il faut le dire. Parce que c'est l'image qu'on en conserve aujourd'hui, parce qu'on voit le palais de l'Élysée, évidemment, on voit, etc. On voit nos grands ministères. Et on a tendance à penser que toutes ces boiseries étaient dorées. C'était loin d'être le cas. Certaines étaient tout simplement à la capucine, c'est-à-dire repeint de faux bois.
Tout à fait. Alors ça, c'est plus vers le 18e qu'on revient à cette tendance de la peinture faux bois.
Mais généralement, c'était en vernis martin, ce qu'on appelle les vernis martin.
Des teintes beaucoup plus douces, notamment dans les gris, les bleutés, les rosés, qui reviennent à la mode, même les jaunes, etc. Donc voilà, on change un petit peu et c'est beaucoup plus voilà, ce genre de peinture que l'on préfère plutôt que le blanc et or qui revient extrêmement cher aussi à la création.
Alors un peu de technique, François Gilles, juste quelques éléments, mais en quoi sont les panneaux
que l'on sculpte comme ça pour faire ces boiseries ?
Alors pour des boiseries, ils sont tout le temps en chaîne en fait, parce que c'est quand même un arbre qui pousse assez rapidement, qui pousse très droit.
C'est le
bois noble, c'est un bois qui se travaille très bien et qui a un coût, je dirais, relativement moyen à l'époque.
Relativement, parce que ça coûte quand même extrêmement cher. Hein.
Ah bah oui,
ça coûte aussi cher qu'un grand panneau textile. Or, il faut savoir qu'à l'époque, ces panneaux de brocart coûtaient une fortune.
Oui, et ce qui est vraiment important dans ce travail, c'est pas tant le matériau, et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est le nombre d'heures passées exactement à travailler la matière et à la transformer, à la transcender. C'est ça qui compte.
Alors, ces chaînes, on doit les sélectionner, j'imagine. Le maître d'atelier choisit le bois sur lequel on va travailler. Et ensuite, on sculpte. Et ça, je tiens vraiment à le dire, c'est peut-être l'idée à retenir. On sculpte dans la masse, dans l'épaisseur. On ne fait pas des petites sculptures qu'on vient coller sur la, comme on fera plus tard au 19e ou au 20e siècle. Mais là, ce n'est pas le cas. On sculpte dans la masse.
Non, du tout. Effectivement, quand on voit un immense panneau de boiserie avec des éléments qui s'en détachent, il faut bien imaginer que l'épaisseur d'origine est l'épaisseur de l'élément. Hein, donc, il y a un travail qui est assez colossal.
On creuse le reste,
voilà.
En fait.
Hein. Alors, à partir de la Régence et du Louis XV, on va commencer à rajouter quelques collages, en fait, pour pouvoir avoir des éléments encore plus exubérants qui vont encore plus se détacher. Mais globalement, il faut vraiment s'imaginer une énorme masse de bois qu'il faut venir dégrossir pendant des heures jusqu'à temps de parvenir à obtenir un motif, puis ensuite peut-être un visage, des fleurs, des acanthes.
Qui décide du motif ?
Alors, en vérité, ça, c'est très difficile à définir. On a des dessins d'architectes, on a des dessins d'ornemanistes, on a des dessins de sculpteurs. De là à savoir où s'arrête parfaitement eh bien, la limite entre eux, on ne le sait pas très bien. Mais ce qui est sûr, c'est que le volume, c'est que la mise en volume relève purement du travail de sculpteur.
Et avec quel type d'instrument, avec quel type d'outil, travaille-t-on ?
Alors, on commence toujours évidemment par un dessin, donc voilà, c'est ce que je disais, qui va nous permettre de définir le contour. Et ensuite, on va monter les volumes à la terre, à l'argile, qui va nous permettre de concrétiser finalement ce que va être l'ornement, ce que va être le volume, avant de le copier, alors peut-être de le mouler pour en garder un plâtre qui va être pérenne, et ensuite de le sculpter directement dans la masse du bois.
J'ai eu la chance, il y a quelques mois, de voir le démontage des panneaux du salon de la Méridienne à Versailles, et de voir que tous ces panneaux étaient loin d'être de vulgaires planches de bois, si je puis dire. C'est très sophistiqué ce qui se passe derrière. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes de coulisses pour que le bois puisse jouer sans se fendre. C'est tout à fait extraordinaire. Hein. On est à un niveau de sophistication technique impressionnant, Jean-Baptiste Korn.
Ah oui, alors ça, après, ça revient tout au mérite des menuisiers qui viennent mettre en place justement tous ces chefs-d'œuvre de sculpture et qui font preuve vraiment d'ingéniosité pour mettre en place ces panneaux et pour cacher les défauts des murs, etc. Et pour éviter, comme vous dites justement, que le bois joue au fil du temps.
Je me posais la question pour avoir été très 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 souvent à Versailles, bien sûr. Je me disais, mais comment expliquer que tous ces grands panneaux ne soient justement pas fendillés, pas abîmés, etc. Et pour cause, ils jouent, ils travaillent, ils suivent les évolutions de la bâtisse parce qu'ils ont été conçus comme ça. Ce sont des panneaux en quelque sorte intelligents. Si ça, c'est pas extraordinaire. Alors, à quoi ressemblait un atelier comme celui des frères Rousseau? C'est ce que nous allons découvrir dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck
Ferrand.
Les
boiseries des frères Rousseau, par exemple, au château de Versailles ou encore bien d'autres œuvres. On en parle cet après-midi sur Europe 1, les frères Rousseau ornemanistes, avec vos invités, Franck Ferrand, François Gilles, sculpteur ornemaniste diplômé de l'école Boulle et meilleur apprenti de France, et Jean-Baptiste Korn, enseignant et doctorant à l'école du Louvre et à l'école pratique des hautes études.
Oui, alors justement, Jean-Baptiste Korn, je parlais tout à l'heure de cet atelier qui pouvait comporter plusieurs dizaines d'employés, dont beaucoup étaient des artisans de très haut niveau. Combien y avait-il de monde chez les frères Rousseau à la grande époque, en 1770 ?
Alors la question piège, parce qu'on ne sait pas. Donc, malheureusement, on n'a pas forcément un bon visuel de leur atelier. On sait justement qu'ils devaient avoir environ une quarantaine d'ouvriers à demeure, pouvant monter jusqu'à 100, 120 dans les très grands chantiers.
Ah, il y avait des grosses commandes, il fallait aller très vite. Oui, c'est ça.
Il fallait très vite et on n'hésitait pas à envoyer la prévôté, saisir des artisans à Paris pour les faire venir à Versailles travailler dans les ateliers des différents artisans.
Je me rappelle un commissaire-priseur qui, il y a longtemps, me disait « Ah, mais vous savez, à l'époque, on prenait son temps, etc. » Et en découvrant peu à peu les archives de la Maison du Roi, je me suis rendu compte que c'est totalement faux. C'est-à-dire que nous avons de cet ancien régime une image assez déformée. On imagine que les gens avaient la vie devant eux et qu'ils avaient effectivement des années pour faire le moindre panneau. Pas du tout. On les pressait, on les pressurait, on leur demandait quasiment l'impossible. Il fallait qu'un panneau qui normalement demande un an de travail soit fait en 3 semaines. C'est quand même incroyable. D'où venait cette fébrilité en quelque sorte ?
Alors ça, c'est véritablement le pouvoir royal qui force les artisans à travailler vite. Vous avez parlé justement de ces voyages de la cour qui contraint les artisans à aller de plus en plus vite dans les chantiers. Alors ça pose parfois d'énormes problèmes.
Disons les choses, il y a quand même le caprice du souverain, et notamment de la reine, parce qu'on a quand même, à partir de 1774, une souveraine qui ne veut point de borne à ses désirs, si je puis dire. Ouais. C'était Madame de Maintenon qui disait ça, mais Marie-Antoinette aurait pu reprendre la phrase à son compte. Il fallait que ça aille vite et bien. Et quand elle décidait de changer un décor, il fallait que 3 ou 4 mois plus tard, le décor soit réalisé. C'était quand même étonnant, ça.
Tout à fait. Donc ça, c'est, on va dire, le privilège de la reine, d'expédier les commandes le plus rapidement possible. Mais pour moi, les plus capricieuses que j'ai rencontrées dans mes recherches, ce sont les tantes du roi.
Madame Adélaïde et Madame Victoire,
exactement,
surtout. Hein,
ce sont elles qui exigent le plus rapidement possible.
Ce sont les filles de Louis XV.
Qui se plaignent généralement le plus souvent.
Et elles demandent toujours plus d'ornements, toujours. Parce que c'est une question aussi de statut social, il faut bien être conscient de ça. Nous, aujourd'hui, nous ne voyons plus que l'aspect purement décoratif, que l'inventivité, que la splendeur de ces grands panneaux de boiserie. Mais à l'époque, selon le nombre de sculptures sur votre mur, si je puis dire, vous êtes plus ou moins important. Donc c'est une affaire politique, c'est très essentiel, il faut bien le comprendre ça.
Ah oui, et puis il y a l'effet de mode, c'est-à-dire il faut toujours suivre la mode qui est changeante, on va dire tous les 5, 6, voire 10 ans, et donc il faut être à la pointe du goût, et notamment dans son décor.
Alors il y a un grand atelier qu'il faut citer, celui des Verbeck quand même, qui ont fait aussi beaucoup de panneaux de Versailles, notamment dans le Salon du Conseil, qui sont peut-être les boiseries les plus célèbres de France, on va dire, ou les plus spectaculaires. Qu'est-ce qui va faire la particularité de l'atelier des Rousseau dont nous parlons aujourd'hui ?
Alors, ça vient déjà de leur père qui, lui, va réussir à supplanter un petit peu Jacques Verberck dans le style.
Où Jacques Verberck ne va jamais... Il est resté rocaille, lui, en fait.
Il est resté très rocaille. Son fils, le fils de Jacques Verberck, mourra très jeune et ne pourra pas reprendre l'atelier. Et Jules-Antoine va justement montrer qu'un style nouveau,
Rousseau, donc,
Jules-Antoine Rousseau, qui est jeune à cette époque-là dans l'atelier de Verberck, va démontrer que lui sait imposer un style nouveau que Verberck n'a jamais véritablement réussi à faire évoluer.
Alors ce style, il naît, disions-nous, de la fusion de deux arts, c'est-à-dire sculpture et peinture. Ça, c'est nouveau quand même.
Alors ça, c'est vraiment une spécificité des deux frères. C'est ce qui va faire toute leur réussite au sein des bâtiments du roi et dans les commandes privées. C'est de combiner parfaitement peinture et sculpture dans un même ensemble, en gros en dirigeant l'intégralité d'une commande.
On pourrait presque dire qu'ils ont inventé un nouvel art de la boiserie. Ils sont allés très loin de ce point de vue.
Oui, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai qu'ils ont une spécificité qui font qu'ils sont assez précoces, même s'ils vont se faire rattraper par beaucoup d'autres artisans, notamment à Paris.
Quand on voit ce qui est devenu le cabinet de la cassette de Louis XVI, mais qui était autrefois la salle de bain, la dernière des salles de bain de Louis XV, on a quasiment des tableaux en polychromie d'or et en très 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 bas-relief. Quelque chose de presque comme de la porcelaine. Ce raffinement était quand même leur marque, si je puis dire, leur signature.
Oui, dans un sens où ils maîtrisent extrêmement bien, notamment la figure humaine dans les panneaux. Donc ils sont assez appréciés justement pour ce genre de détails. Et la finesse des ornements, alors vous parlez justement de cette salle de bain, ce qui est incroyable, c'est que ces médaillons sur panneaux sont retenus par un nœud de ruban comme un tableau accroché à un mur, alors que c'est simplement de la sculpture.
Comment ça se passe d'un point de vue concret ? Le commanditaire, imaginons la reine par exemple, commande un nouveau décor. Elle rencontre elle-même le chef de l'atelier, ça se passe ?
Jamais.
Non, jamais.
Alors,
ah bon ?
Il faut bien comprendre que c'est véritablement, les artisans ne rencontrent jamais leur commanditaire premier. Elle passe par son architecte qui lui passe commande auprès des artisans.
C'est l'architecte qui est l'intermédiaire. Hein.
Exactement, c'est lui qui fait l'intermédiaire, ce n'est pas le commanditaire qui choisit son artisan.
Alors, vous avez choisi vous, parce que vous n'avez plus de commanditaire, c'est ça qui est extraordinaire, François Gilles, vous avez choisi de copier un panneau qui est en quelque sorte le plus difficile jamais réalisé.
Alors, c'est vrai qu'il fait partie quand même de ces chefs-d'œuvre qui me fascinent toujours, bien que je l'ai copié, mais en tout cas, je n'ai pas atteint ce degré de perfection qui est celui du panneau d'origine. Mais en effet, c'est un panneau qui a été... faudrait parler un petit peu de la succession entre Jules-Antoine Rousseau et ses deux fils. Mais voilà, il y a eu un scandale à un moment donné parce que on a accusé Jules Hugues et Jean Siméon de s'approprier le travail de l'ancien associé de Jean Siméon dont vous avez parlé tout à l'heure. Et donc finalement, pour se dédouaner et pour prouver à quel point ils étaient talentueux techniquement, ils ont produit ce chef-d'œuvre qui est un pur chef-d'œuvre technique, qui est d'une extrême finesse en fait, qui prouve bien cette dextérité, et ils vont l'offrir à l'Académie d'architecture. Enfin, ils vont avoir en tout cas l'intention de l'offrir.
Et alors, vous faites une copie qui n'est pas exactement à la taille de l'original, il
exactement.
Faut le dire.
Je la fais au 16 dixième, donc c'est légèrement plus grand. L'original fait à peu près 80 cm. Moi, je le fais à 1 mètre. Il faut bien dire que aujourd'hui, à peu près personne n'est capable de faire la même échelle que l'original.
Ce panneau était destiné à être intégré dans un décor ?
Alors non du tout, et c'est ça la véritable particularité. C'est ça qui nous a, avec Jean-Baptiste, beaucoup intrigué. C'est qu'on se demandait bien quelle était la fonction, quel était le rôle de cette sculpture jusqu'à
temps. À quoi servait-il,
voilà, jusqu'à temps de découvrir les documents d'archives qui nous permettent de dire que c'est une arabesque qui est conçue. Eh bien, pour séduire, elle est conçue pour être présentée comme un tableau et pas comme un décor. C'est ça qui est important.
Alors, j'ai beaucoup parlé de transmission pendant ce récit et pendant cette émission. On ne peut plus parler aujourd'hui vraiment de transmission. Comment faites-vous pour retrouver les gestes qui étaient ceux du XVIIIe siècle, ceux de Rousseau? Alors, il faut dire quel est l'auteur de votre panneau. Hein.
Alors, du coup, c'est Jean-Siméon Rousseau-Larotière, donc qui était effectivement plutôt peintre.
Mais c'est le dernier dont nous avons parlé.
Voilà, qui était plutôt peintre, qui a fait l'Académie royale de peinture, mais qui sera aussi maître sculpteur, et donc qui en fait aussi fait la preuve de ses qualités de sculpteur.
Alors, comment faites-vous pour... il faut réinventer les choses, ou est-ce qu'on a quand même quelques notions de la manière dont on procédait autrefois?
Alors, en vérité, il y a quand même eu une certaine transmission. L'outillage que l'on utilise aujourd'hui est toujours le même. Les techniques sont les mêmes. C'est vrai que ce qui finalement s'est perdu, c'est la dimension créative rattachée au métier de sculpteur en humaniste. Mais je dirais que les techniques en elles-mêmes ont été conservées, et on a l'école Boulle qui existe depuis la fin du 19e siècle, qui sert aussi quand même d'élément de transmission, de maillon qui permet de former régulièrement de jeunes sculpteurs en humaniste.
Il faut absolument que nous mettions des photos de votre chef-d'œuvre sur la page Facebook de l'émission. Je invite nos auditeurs à aller sur cette page Facebook pour voir ces merveilles. On peut dire que votre passion aujourd'hui maintient en vie ces savoir-faire extraordinaires. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait revivre ce grand air, ces urbanités des façons anciennes et surtout leur délicatesse.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Les frères Rousseau sont au cœur de l'histoire cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand revient dans un instant, juste après Vivre ou ne pas vivre de Marc Lavoine.
Vivre ou ne pas vivre, vivre son rêve même à tout prix, tout donner au jour et à nuit, s'abandonner à l'infini.
Vivre ou ne pas vivre, pour la gloire, pour les sous, pour un rêve devenu fou, faut-il y aller à genoux? Vivre ou pas vivre, pour cette passion qui nous dévore, où l'on peut voir passer la mort, puisqu'elle fait partie du décor.
Vivre ou ne pas vivre,
être seul, être là, être enfin, face à soi-même.
Vivre ou ne pas vivre,
être fort, être fort, être encore face à soi-même.
Vivre ou ne pas vivre,
être nul, être bon, être bon, face à soi-même.
Vivre ou ne pas vivre,
être un jour, une nuit, être en vie, face à soi-même.
Vivre ou ne pas vivre,
est-ce la paix, est-ce la guerre? La vie vaut-elle une carrière?
Vivre ou ne pas vivre,
être seul, être là, être enfin, face à soi-même.
Vivre ou ne pas vivre,
être fort, être fort, être encore face à soi-même.
Vivre ou ne pas vivre,
être nul, être beau, être beau, face à soi-même.
Vivre ou ne pas vivre,
être un jour, une nuit, être en vie, face à soi-même. bord de la Seine, au gars se jeter dans la Seine, un corps perdu à peine à l'aile. Être seul, être là, être enfin, fait ça soi-même. Être fort, être faible, être encore, face à soi-même. Être beau, face à soi-même. Être un jour ou une nuit, être en vie, face à soi-même.
Vivre ou ne pas vivre, Marc Lavoine à l'instant sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand.
Exceptionnellement aujourd'hui, Franck, pas de retour aux origines, mais on n'y perd pas au change puisque vous nous emmenez à la découverte des décors de la chancellerie d'Orléans.
Ah ça c'est une belle histoire, celle de la chancellerie d'Orléans, une histoire que j'ai découverte grâce à Bertrand Duvigneau de Villefort qui est le patron du World Monument Fund et qui lui-même a entendu pour la première fois parler de la chancellerie d'Orléans alors qu'il assistait à une exposition sur l'architecte Charles de Vailly en 1979. En fait voilà ce qui s'est passé. On avait un des bâtiments les plus raffinés, notamment dans ses décors. Certes, l'architecture était très belle, mais les décors intérieurs étaient un sommet du raffinement des arts décoratifs du XVIIIe siècle, justement. Or, après la Première Guerre mondiale, lorsqu'on veut agrandir la Banque de France, on va détruire ce petit bâtiment qu'on appelait la chancellerie d'Orléans, parce qu'il avait été bâti pour un des chanceliers du duc d'Orléans, qui était Paulmy d'Argenson. Et donc, on l'appelait, c'était la tradition, on appelait ce bâtiment la chancellerie d'Orléans. On va détruire le bâtiment, mais comme il présente un caractère artistiquement exceptionnel et comme la commission du Vieux Paris à l'époque prend fait et cause pour les grands décors qui s'y trouvent encore renfermés, on va décider de détruire le bâtiment de façon de le déconstruire, si je puis dire, de le démolir de façon très très délicate, pierre par pierre, et l'on va tout numéroter, on va déposer toutes les boiseries, on numérote chaque panneau, on le met dans de la paille, dans des caisses, etc. Et cette immense quantité de caisses, c'est très impressionnant à voir, va se retrouver dans un entrepôt à Asnières, avec l'idée que tout ça sera rebâti dans les années qui suivent. Donc on pense que c'est sans doute à échéance de 10 ans, on se dit qu'au milieu des années 30, on va rebâtir la chancellerie d'Orléans dans un autre endroit. Oui, sauf que les temps étant difficiles, arrive la crise, bien entendu, de 1929-1930 en France, arrive bientôt la Seconde Guerre mondiale, etc. Et les caisses restent dans leur entrepôt, personne n'en fait rien, et il est question seulement à partir des années 1990, et grâce à Bertrand Duvigneau, il est question de rebâtir la chancellerie d'Orléans. Alors cette fois, ça y est, et c'est très récemment, en juillet 2015, qu'une convention a été signée entre la Banque de France et le ministère de la Culture pour le remontage de la chancellerie d'Orléans à l'hôtel de Rohan. C'est-à-dire qu'on est là au Palais Soubise, vous savez, on est au siège des archives nationales. Alors, ce qu'on va rebâtir, disons-le, ce sont les intérieurs, ce sont les décors de trois des grands salons de cette chancellerie d'Orléans, avec tous les éléments d'époque, puisqu'on a tout gardé jusqu'au bouton de porte. Je pense que ça va être assez extraordinaire. Merci beaucoup Anissa, nous nous retrouvons demain.
À demain, c'était Franck Ferrand.